Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. À moins d'une semaine de la présidentielle du 3 novembre, le candidat républicain Donald Trump s'est dit mardi excédé de voir la campagne dominée par la pandémie de COVID-19, dont son adversaire démocrate Joe Biden a fait son principal atout en dénonçant la gestion du président américain. Une page spéciale sur cette élection dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion et Jacques Aristide. La communauté internationale a accentué mardi la pression sur le pouvoir en Guinée. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, mettant en doute la crédibilité de la réélection du président Alpha Condé et évoquant des interrogations, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Il conviendra d'y répondre dans le cadre d'un dialogue inclusif et de la poursuite du processus de validation prévu par la loi, a-t-il ajouté. Je salue le soutien de l'UE aux Guinéens qui se battent pour leurs droits et libertés confisqués par Alpha Condé, un exemple à méditer par la CEDEAO et l'Union africaine, a tweeté dans la soirée le chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo, qui revendique toujours la victoire. Une mission de médiation internationale réclame la levée du blocage de son domicile. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara, nous donnera d'autres détails. Au Libéria voisin, un proche collaborateur du président George Weah, qui en est à son premier mandat, a affirmé mardi qu'il ne visait pas à faire plus de 2 mandats, démentant ainsi des rumeurs attribuant à l'ex-star du football des velléités d'imiter certains de ses pairs ouest-africains en quête de 3e mandat. « Ce n'est pas bon d'être président pendant une longue période », a-t-il dit. Plus de 300 migrants en route pour l'Europe ont été secourus ces 2 derniers jours au large de la Mauritanie dans 2 embarcations, victimes d'une panne de moteur, et 2 corps ont été découverts sur l'une d'elles, a rapporté mardi l'agence mauritanienne d'information. La première pirogue avait à bord 134 migrants sénégalais en partance pour les îles Canaries et la deuxième transportait 161 migrants clandestins, dont des Sénégalais, des Guinéens et des Gambiens. Au Sénégal même, forte émotion après un nouveau naufrage qui a fait au moins 10 morts. Abdourahmane Dia nous en dira plus. En République démocratique du Congo, 24 personnes ont comparu mardi à la première audience du procès pour meurtre de frères jumeaux, 2 rappeurs locaux brûlés vifs, fin juillet dans une localité enclavée du sud-ouest. Max Sengan Tumba et Percé Mwamban Tumba avaient été accusés d'avoir tenté de voler la moto d'un conducteur qui les transportait. La France et l'Allemagne se préparent à durcir leur dispositif pour tenter d'endiguer la 2e vague du COVID-19, emboîtant le pas à d'autres pays européens comme l'Italie, où le mécontentement grandit face à des mesures de plus en plus draconiennes. La ville américaine de Philadelphie a vécu une nouvelle soirée de manifestations mardi, marquée par des interpellations, tandis que des pillages avaient lieu au lendemain de la mort d'un homme noir abattu par des policiers qui disent qu'il était armé d'un couteau. Walter Wallace Jr. a refusé de lâcher son arme malgré les injonctions des agents. Sa famille dit qu'il souffrait de troubles bipolaires et était en proie à une crise. Le gouvernement saoudien a condamné mardi la diffusion de dessins caricaturant le prophète Mohammed, tout en réitérant son refus de voir l'islam associé au terrorisme. Son communiqué n'évoque pas les appels au boycott lancés contre les produits français dans plusieurs pays majoritairement musulmans, après que le président français Emmanuel Macron a défendu la liberté de caricaturer le prophète Mohammed après la décapitation d'un professeur qui avait montré de tels dessins en classe. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia, restez à l'écoute. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Une semaine de la présidentielle du 3 novembre, le candidat républicain Donald Trump s'est dit mardi excédé de voir la campagne dominée par la pandémie de COVID-19, dont son adversaire démocrate Joe Biden a fait son principal atout en dénonçant la gestion du président sortant. Le point avec Jean-Roger Bion.
COVID, 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 les médias fake news n'ont que ce mot à la bouche, a lancé le candidat républicain lors du deuxième de ses trois meetings de la journée à West Salem, un village de l'État clé du Wisconsin dans le nord du pays. Plus tôt dans le Michigan, un autre État décisif, le président sortant avait dit devant une foule compacte de centaines de partisans que les électeurs auraient le choix le 3 novembre, je cite, entre notre plan pour tuer le virus ou le plan Biden pour tuer le rêve américain. Il veut vous enfermer de nouveau, a prévenu M. Trump. Cette élection est un choix entre une super reprise Trump et une dépression Biden. Le président américain a visité successivement au total mardi les États du Nebraska, du Michigan et du Wisconsin. Son rival démocrate, Joe Biden, s'est contenté, lui, d'un seul État, celui de Géorgie, dans le sud conservateur. Joe Biden s'y est inscrit dans la lignée d'un illustre président démocrate de temps de guerre, Franklin Delano Roosevelt, à Warm Springs, où l'ancien dirigeant paralysé des jambes par la polio se rendait pour ses eaux thérapeutiques. Si vous m'accordez l'honneur d'être votre président, préparez-vous à un changement de priorité, car nous agirons dès le premier jour de ma présidence pour reprendre le contrôle du COVID, a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama dans un discours en extérieur d'une vingtaine de minutes devant quelques invités à distance les uns des autres. Il s'est ensuite rendu dans la plus grande ville de Géorgie, Atlanta, pour un meeting en drive-in auquel ont assisté depuis leur voiture près de 800 personnes, l'un des plus gros rassemblements de sa campagne jusqu'ici. Après la confirmation lundi par le Sénat de la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis, une victoire politique indéniable pour M. Trump, la dernière semaine de campagne pourrait voir revenir en force la question des brutalités policières et du racisme qui agitent le pays depuis des mois. La ville de Philadelphie a été le théâtre dans la nuit de lundi à mardi d'une flambée de violence après qu'un Africain-Américain de 27 ans, Walter Wallace, souffrant de problèmes psychologiques, a été abattu par des policiers qui affirment qu'il avait un couteau. À moins d'une semaine maintenant de la présidentielle, 67 des plus de 230 millions d'électeurs américains ont déjà voté par anticipation, un tiers en personne et deux tiers par courrier, un record historique. Jean-Roger Billon, VOA Afrique, Washington.
Revenons maintenant sur la confirmation par le Sénat américain lundi soir de la nomination par le président Donald Trump de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Le point avec Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, avec le récit de Jacques Aristide.
Sous le regard du président Trump, la juge Amy Coney Barrett a prêté serment pour rejoindre la plus haute cour du pays.
Elle est l'une des juristes les plus brillantes de notre nation et elle sera une juge exceptionnelle à la plus haute juridiction de notre pays.
Mère de sept enfants et fervente catholique, Mme Barrett a eu l'approbation du Sénat américain lors d'un vote hier par 52 voix contre 48. Elle remplace à la Cour suprême la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée le mois dernier. Tous les républicains, sauf une, ont soutenu Mme Barrett. Les membres du parti du président l'ont dépeinte comme une candidate très qualifiée. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat.
Ce soir, nous pouvons placer une femme aux capacités et au tempérament inégalés à la Cour suprême. Nous pouvons faire un autre pas historique vers un système judiciaire qui remplit son rôle d'une manière excellente.
En revanche, tous les démocrates ont voté contre elle, la faisant valoir que le processus de confirmation de Mme Barrett était trop proche du jour des élections. Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
La majorité républicaine du Sénat a décidé de contredire la volonté du peuple et confirmer une nomination à vie à la Cour suprême au milieu de l'élection présidentielle, et ce, après que plus de 60 millions d'Américains ont voté. Que ce soit noté ce soir, la majorité républicaine brise une tradition longue de 231 ans et devient la première majorité à confirmer un juge à la Cour suprême aussi proche des élections.
Les démocrates craignent que Mme Barrett cimente une majorité conservatrice de 6 juges contre 3 à la Cour suprême. Le sénateur démocrate Chris Coons.
Les affaires qui pourraient être en danger avec la juge Barrett à la Cour suprême couvrent un vaste éventail de sujets, des questions qui affectent au total des centaines de millions de vies américaines, des soins de santé à l'éducation, en passant par la protection des consommateurs et l'égalité du mariage.
Mais au cours du processus de confirmation de 4 jours, Mme Barrett a déclaré aux législateurs qu'elle n'apporterait aucun agenda personnel aux décisions judiciaires, ce qui a entraîné les éloges du chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Lindsey Graham.
Pour les jeunes femmes conservatrices qui sont pro-vie et adhèrent à leur foi, il y a une place à la table des discussions pour vous. C'est historique. Cette nomination est différente. C'est une percée pour les jeunes femmes conservatrices.
La juge Barrett va siéger presque immédiatement lors des audiences à venir, concernant notamment une contestation de la loi sur les soins de santé de l'administration Obama qui offre une assurance maladie à des millions d'Américains, de même que d'éventuels recours liés au nombre record de bulletins de vote par correspondance.
Dans le reste de l'actualité, les Tanzaniens se rendent aux urnes aujourd'hui. Le président sortant, John Magufuli, 60 ans, brigue un second mandat dont le premier a été marqué par la répression de l'opposition et des restrictions aux libertés, Jacques Aristide.
Les électeurs de la Tanzanie continentale et de l'archipel semi-autonome de Zanzibar vont élire leur président et leurs députés après une intense campagne électorale marquée par des rassemblements massifs dans le camp présidentiel comme dans celui de l'opposition. Parmi les 15 candidats en lice, le principal rival du chef de l'État sortant est le leader du parti d'opposition Chadema Tundu Lissu, 52 ans, rentré au pays en juillet dernier après 3 années d'exil. Il était soigné à l'étranger pour des blessures par balles reçues en 2017 lors de ce qu'il a dénoncé comme une tentative d'assassinat politiquement motivé. Le candidat de l'opposition dans l'archipel tanzanien de Zanzibar a été interpellé hier matin mais relâché dans l'après-midi. Saïf Sharif Hamad, qui se présente pour la 6e fois à la présidence de Zanzibar, a accusé les forces de sécurité d'avoir abattu 10 personnes, ce que la police a fermement démenti. Les tensions et violences politiques sont plus fréquentes à Zanzibar que sur la partie continentale de la Tanzanie. Pour les observateurs, il s'agit d'une élection en forme d'épreuve de vérité pour le président Magufuli, surnommé le bulldozer en Tanzanie.
Crise politique en Guinée, une mission ONU, UA, CDAO, présente à Conakry depuis dimanche, demande la fin du blocage du domicile de l'opposant Sélou d'Alain Diallo. Les émissaires internationaux rencontrent les partis concernés par l'élection présidentielle du 18 octobre pour une sortie de crise. Sélou d'Alain Diallo revendique toujours sa victoire à la présidentielle, malgré les résultats provisoires de la CENI qui donne le président sortant vainqueur avec 59% des voix. Le point est avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
La mission conjointe a bouclé mardi son séjour après des rencontres à Conakry. Lundi, elle a eu des échanges avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante, le Premier ministre guinéen et Sélou d'Alain Diallo, l'opposant dont le domicile reste toujours bouclé par les forces de l'ordre, reproche à la mission internationale de ne pas faire assez pour éviter à la Guinée une crise. Dans un communiqué, son parti parle de manque d'initiative face à une crise qui dure plus d'une année. Les envoyés de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont pourtant appelé à la fin du blocage du domicile du principal opposant au président Alpha Condé. Pour Sélou Dalein Diallo, seule la reconnaissance de sa victoire mettrait un terme à la crise, précise l'UFDG, son parti, dans un bref compte-rendu de la rencontre avec la mission internationale. Le parti de l'opposant a affirmé l'arrestation lundi de ces deux vice-présidents qui ont été finalement relâchés. Après plusieurs jours de violence, les activités ont repris mardi à Conakry. Le trafic était dense sur l'autoroute Fidel Castro, alors que la route Le Prince était presque déserte, avec une présence remarquée des forces de l'ordre. Les violences post-électorales ont fait 21 morts selon le gouvernement guinéen et au moins 25 morts selon l'opposition. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Sénégal s'inquiète de la recrudescence des tentatives d'émigration clandestine vers l'Europe après un nouveau naufrage qui a fait au moins 10 morts et suscité une vive émotion dans le pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Entre le 7 et le 25 octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la Guardia Civile espagnole, a intercepté 5 pirogues en partance pour l'Europe, secourant au total 388 personnes, selon le gouvernement. Une des pirogues a connu une avarie. Un incendie s'est déclaré à bord le 23 octobre au large d'Ombour, à plus de 80 km au sud de Dakar. L'incendie a été provoqué par une explosion du moteur et des fuites de carburant à bord, selon le gouvernement. Et selon toujours les autorités, 28 présumés convoyeurs ont été interpellés et les opérations de surveillance en mer sont en train d'être menées avec des moyens renforcés. Le président Macky Sall a déploré sur Twitter la perte de plus d'une dizaine de jeunes. Les médias sénégalais ont évoqué plusieurs dizaines de disparus en se fondant sur des témoignages de rescapés. Le président Sall a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de l'ordre pour préserver la vie des jeunes tentés par l'immigration.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição, a publié une liste de 32 joueurs présélectionnés pour affronter le Mozambique le mois prochain. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN que le Cameroun organise en 2021, les joueurs retenus sont presque les mêmes que ceux qui ont disputé le match amical contre le Japon ce mois-ci. Chose remarquable, l'absence du défenseur Nicolas Nkoulou et de l'attaquant Jean-Pierre Ntsamé, pas convoqué. Un joueur local a cependant été appelé Seydiki Aboubakari de l'Union de Douala. Christian Bassogok fait son retour auprès de l'attaquant Angevin Stéphane Baouken, tout comme Éric-Maxime Choupo-Moting, Jean-Charles Castelletto, Clinton Ndié, Vincent Aboubakar ou encore Eric Ayouk, tous absents au précédent regroupement. Début de préparation réussi pour les Aiglons du Mali face à la Mauritanie, un match amical international des moins de 20 ans. Les Maliens ont écrasé les Mauritaniens 6-0 à Bamako. Aiglons et Mourabitoun Junior se retrouveront le 29 octobre pour un autre match amical. Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, prévu au Sénégal du 20 au 29 novembre prochain. En Europe, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a félicité son équipe revenue à 2-2 contre Mönchengladbach après avoir été menée 2-0 jusqu'à la 87e minute lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. 0-0 entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez a battu l'Olympique de Marseille 3-0. Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip a gagné 2-0 devant Midtjylland, 2-0 également pour le FC Porto face à l'Olympiakos, 3-2 pour l'Atlético Madrid devant le RB Salzbourg et 2-1 pour le Bayern Munich face au Lokomotiv Moscou. Ce soir, Cristiano Ronaldo sera absent probablement de la rencontre entre son club, la Juventus Turin, et le FC Barcelone de Lionel Messi. La Juventus n'a pas annoncé hier de test négatif au Covid-19 indispensable au Portugais pour espérer disputer le choc de Ligue des Champions. Deux semaines après avoir été testé positif avec sa sélection, CR7 a effectué la quarantaine minimale de 10 jours, mais un test négatif lui est indispensable pour quitter son domicile. Les textes de l'UEFA stipulent en effet que, pour l'équipe qui reçoit, les joueurs doivent être testés 1 à 2 jours avant le match et les résultats communiqués au moins 6 heures avant le coup d'envoi.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Toujours pas de nouvelles du citoyen américain enlevé à la frontière nigéro-nigériane. La victime qui vivait avec son épouse et leur enfant dans son jardin près du village de Massalata serait conduite au Nigeria par ses ravisseurs, 6 au total, tous armés et venus à moto. Précision de notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Dans un communiqué rendu public en début de soirée de ce mercredi, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger exprime sa solidarité avec la victime dont elle tait le nom pour respect, dit-elle, de la protection de la vie privée. Elle exhorte sa libération immédiate et en toute sécurité. Stephen Drycon, porte-parole de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger.
Le gouvernement américain travaille sans relâche avec le gouvernement nigérien et les responsables de la sécurité pour la libération de la victime. Le gouvernement américain est également en communication avec les familles des victimes. Les détails concernant cette affaire sont toujours en cours. Cependant, l'ambassade demande à toute personne ayant des renseignements sur l'enlèvement de contacter l'ambassade.
La victime enlevée est le fils d'un citoyen américain établi depuis 2003 dans la ville de Birninkoni, située à quelques 400 km de la capitale Niamey.
Ces gens-là vivent parmi la population. Ils ont acheté leur jardin, ils ont acheté des champs, ils font même du fromage. Donc, ils vivent comme des Nigériens. Donc, et je pense que sur leur passeport et tout, ils ont même dit qu'ils vont demander à ce qu'ils soient naturalisés. Et ça fait longtemps qu'ils sont au Niger. Donc, ils sont connus. Et certainement, peut-être avec la complicité, ils ont été identifiés. Et comme lui, il est déjà écarté de la ville. Donc, ils ont profité de ce déménagement. Ça fait tout juste un an qu'il est là-bas. Donc, pour venir l'enlever.
Pour clarifier les circonstances de cet enlèvement et libérer la victime, une enquête est ouverte par la police nationale du Niger. Les responsables de la sécurité du Nigeria où les ravisseurs seraient répartis sont mis à contribution selon le préfet du département de Kony. Le père de la victime qui témoignait à la mi-journée a donné quelques indices.
6 hommes qui sont venus à pied, ils ont enlevé mon fils, il cherchait de l'argent dans la maison, mais il n'avait pas assez de l'argent. Il n'avait que quelques 20 000 francs. Suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe. Et ils connaissaient quelques mots anglais comme « sit down, bring money ». C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont été tous les 6 armés.
C'est la première fois qu'un enlèvement a lieu dans cette zone frontalière entre les deux pays où est installée une unité mobile de la police des frontières formée et équipée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a réitéré le mot d'ordre de boycott actif du processus électoral. Des manifestations à travers le pays ont fait des morts, suscitant une médiation de la CEDEAO que l'opposition a rejetée. Cette dernière proteste contre la candidature en troisième mandat du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre et exige la réforme de la commission électorale et du conseil constitutionnel. Yacouba Ouédraogo a joint Pascal Afinguessan, président du FPI et candidat à la présidentielle.
Oui, le bilan est largement positif puisque à travers cette opération, nous avons réussi, comme nous l'avons souhaité, à perturber fortement le fonctionnement du pays, la distribution des cadres d'électeurs et le processus électoral de façon générale. Dans de nombreuses localités, la distribution des cadres électoraux est arrêtée. Et le gouvernement a dû délocaliser dans les brigades de gendarmerie des stocks de cadres pour les préserver. Les populations refusent d'aller retirer des cartes. De nombreuses voies aujourd'hui sont obstruées pour empêcher le convoyage des cartes et cela affecte l'économie de façon générale. Malheureusement, nous dénombrons de nombreuses pertes en vie humaine, près de 70 morts depuis que M. Ouattara a décidé d'être candidat.
Vous le dites si bien, le processus électoral est bouleversé par vos actions, les actions de vos militants. Comment perturber une élection à laquelle on est candidat?
Oui, parce que les conditions dans lesquelles le pouvoir veut organiser les élections sont des conditions inacceptables, des conditions injustes, avec une commission électorale qui le contrôle totalement, parce que composée essentiellement de représentants de son parti, et donc qui ne garantit pas la transparence. Cette situation a été déjà condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme à travers deux arrêts. Il y a que M. Ouattara lui-même n'a pas le droit d'être candidat. La constitution de 2016 l'en interdit. Il a déjà fait deux mandats. Il n'a pas droit à un troisième mandat. Et donc, nous partons pour faire échouer ce coup d'État.
Il y a la médiation initiée par la CEDEAO. Vous l'avez rejetée. Pourquoi?
Non, mais nous attendons. C'est nous qui avons sollicité le dialogue. C'est nous qui avons sollicité la médiation de la CEDEAO. Donc, nous répondons favorablement à la médiation de la CEDEAO, mais nous souhaitons que le dialogue avec le Ouattara, avec le pouvoir, se fasse donc sous l'égide de cette médiation. Et donc, c'est ce que nous avons formulé et nous attendons donc que ce processus-là se mette en place.
Mais la CEDEAO est déjà en médiation?
Oui, elle est déjà en médiation, donc nous attendons qu'elle nous convoque pour que nous commencions, nous entamions les négociations avec le pouvoir.
L'élection présidentielle, c'est le 31 octobre, dans 4 jours. Si les choses restent en l'état, que ferait l'opposition le 31 octobre?
Mais nous faisons en sorte que les choses ne restent pas en l'état. Nous faisons en sorte que soit nous entendons sur les conditions des élections, soit il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et pour le moment, je peux dire que les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre.
Pascal Afinguesan, président du FPI en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, les pillages se multiplient malgré la répression et les appels au calme. Après 2 semaines de manifestations contre la violence policière qui se sont transformées en émeutes, le président Muhammadu Buhari a demandé aux familles de ne pas accepter dans leur maison des articles pillés. Et le chef d'état-major de l'armée a ordonné aux troupes d'arrêter les pillards. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Des scènes de pillage encore en cours au Nigeria suite aux manifestations de jeunes la semaine dernière contre les brutalités policières. Ignorant les couvre-feux imposés par de nombreux gouverneurs des États de la Fédération, des foules ont envahi plusieurs entrepôts de stockage de nourriture appartenant au gouvernement pour emporter avec eux des vivres destinés à être distribués. 9 États de la Fédération nigériane ont été pillés ces derniers jours, comme ici à Kouboua, dans la banlieue d'Abuja. Ce matin, les forces de sécurité ont dispersé les foules de pillards qui ont tenté de dévaliser le centre d'hébergement des jeunes stagiaires sortant des universités. Le directeur général de l'agence, Shaibu Ibrahim, était sur place au moment de l'attaque.
Nous avions été surpris de les voir venir ici. Ils étaient armés de bois et des machettes pour attaquer le centre. Mais nous remercions l'armée et les autres qui ont sauvé l'institution. Mais je profite de cette opportunité pour dire aux Nigérians que ce centre n'est pas un point de stockage de nourriture. Il ne faut pas qu'ils attaquent notre centre.
À Kaduna, c'est le centre de stockage de produits pharmaceutiques appartenant à l'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments qui a été entièrement saccagé et vidé. Une situation grave, indiquent les autorités, puisque les produits volés peuvent être dangereux pour la santé. Dans d'autres états, les autorités sont à la chasse des pillards, comme à Jos, dans l'état du Plateau. Plus de 300 personnes sont arrêtées et seront jugées selon le secrétaire à la justice de l'état. De leur côté, certaines accusent des autorités d'avoir gardé de la nourriture, alors que des millions de personnes ont souffert durant toute la période de confinement. Le Nigeria est le pays le plus peupleux du continent, avec le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Quelques 80 millions de personnes, selon le Bureau des statistiques du Nigeria, sont concernées. La pandémie du coronavirus a exacerbé la situation de nombreux foyers pauvres du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.